C'est dans ma tête, l'émission psychologie de Pigouille Radio, présentée par Christelle. Une émission pour essayer de comprendre certaines de nos émotions et pensées.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission C'est dans ma tête sur Pigouille Radio, radio du Marais Poitevin. J'aime être bien accompagnée. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, sophrologue et sexothérapeute. Vous allez nous aider à comprendre nos émotions lors de situations qu'on peut traverser à des moments de nos vies. Merci de votre présence. Beaucoup d'a priori sur la psychothérapie. Pour cette première émission, C'est dans ma tête, nous vous proposons de commencer, avant tout autre thème, par un sujet important, consulter un psy. Est-ce vraiment entré dans les mœurs? Est-ce suffisamment banalisé au point de consulter? Ou est-ce toujours considéré comme courageux pour les uns, pour les plus fragiles, pour d'autres? Nous allons échanger avec notre spécialiste Catherine, Catherine Desrois. On essaiera surtout de comprendre le but d'une thérapie et de son intérêt, à qui elle s'adresse, quand faire une, qui consulter, quel budget lui accorder, sur combien de temps. Vous êtes sur Pigouille Radio, dans l'émission C'est dans ma tête. Catherine, j'informe nos auditeurs et auditrices que vous avez trois casquettes, psychothérapeute, sophrologue et sexothérapeute. Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Bien, c'est un parcours un peu particulier. Je sors de l'éducation nationale où j'étais psychologue au réseau d'aide des enfants en difficulté. J'ai fait une formation de sophrologie il y a bien longtemps suite à mes grossesses. Ça m'a beaucoup aidée. Je souhaite à tout le monde d'avoir des accouchements comme j'ai pu avoir grâce à la sophrologie. Donc j'ai perduré et après je me suis un peu plus intéressée à la psychologie pour les enfants. C'est là que j'ai travaillé à l'éducation nationale en tant que psychologue des enfants en difficulté.
Et la psychologie pour adultes ou pour tout public, c'est venu avec votre formation justement ?
Oui, c'est un cheminement en fait. Je me suis dit que j'allais peut-être me mettre en indépendant. C'est ce que j'ai fait, c'était un grand moment. Et donc j'ai arrêté l'éducation nationale pour me mettre en cabinet. Votre... À partir de là, donc, j'ai reçu et des enfants et des adultes pour des questions diverses et variées, qui étaient loin de l'école maintenant, à ce moment-là, dans les problèmes de professionnels, émotionnels. Et je me suis formée, donc, suite à ça, il me semblait qu'il me manquait la sexothérapie. Donc, je me suis formée pour être sexothérapeute. Et en fait, j'accompagne les personnes dans tous ces domaines-là, dans la détente, dans le corporel avec la sophro, dans tout ce qui est problème existentiel, problème quotidien, problème émotionnel, relationnel, et dans le domaine de la sexualité.
Merci pour cette présentation. On reviendra certainement sur des sujets qui touchent vos domaines aussi, la sexothérapie et la sophrologie. Aujourd'hui, on est sur le sujet de la psychologie dans cette émission. Donc, est-ce que consulter un psy est entrer dans les mœurs, c'est le sujet du jour. Donc on disait tout à l'heure, est-ce suffisamment banalisé au point de consulter, ou est-ce que suivre une thérapie est toujours considéré, d'après vous, comme courageux pour certains ou pour les plus fragiles pour d'autres, Catherine ?
Alors, actuellement, ce n'est plus un tabou. Même s'il y a encore des résistances qu'on note, comme quoi il y a encore cette idée de on consulte un psy parce qu'on est fou. Mais je pense que ça diminue, ça. C'est vraiment... Et il y a un envol pour la psychothérapie, vu le contexte compliqué actuel, particulièrement depuis 2-3 ans. Mais ça s'est développé depuis une dizaine d'années. Ce n'est plus du tout un tabou. Ça a été beaucoup les femmes en premier hein, qui sont venues. Et puis, petit à petit, et là, c'est un homme sur quatre, à peu près maintenant, qui consulte. Ça, c'est très intéressant.
Et ce n'était pas le cas auparavant ?
Au début où j'ai commencé, j'avais 90%, c'était des femmes.
Et d'ailleurs, depuis combien de temps vous exercez ?
J'exerce en cabinet depuis 15 ans.
Donc c'est plus tabou, il y en a quand même quelques-uns qui sont réfractaires encore ?
Oui. Alors là, les résistances, c'est surtout penser qu'ils sont capables tout seuls de se faire leur thérapie, enfin, de faire des réflexions, que ça va rien apporter.
De s'auto-analyser peut-être.
S'auto-analyser, voilà.
D'accord.
Avec les copines, avec les copains, avec les parents quelquefois, ça va suffire. Or, c'est complètement différent, bien sûr.
On y reviendra tout à l'heure pour justement les réfractaires. On va revenir sur la base du sujet. Donc, je vais citer Carl Gustav Jung qui dit « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine ?
Ça m'inspire que c'est une très belle parole qui me semble aussi très juste. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec l'environnement. Donc il va s'imaginer quelque chose par rapport à l'extérieur. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille parce qu'il va prendre conscience de ce qui lui appartient, ce qui est en lui, ses forces, ses lumières, ses fragilités. Et là, son être va s'éveiller en prenant conscience de tout ça et en travaillant.
Mais en fait, il y a une multitude de façons de parler de thérapie. Vous pouvez nous éclairer sur les différentes appellations des professionnels qui exercent le métier de thérapie, psychothérapeute, psychanalyste, psychologue, psychiatre, thérapeute tout simplement.
Et dans thérapeute, il y a encore plein de sous-thérapeutes, enfin de...
Oui, j'imagine.
Diversité de thérapeutes. Alors ça, c'est des grands termes. Le psychiatre, la grande différence, entre psychiatre, psychologue et psychothérapeute, le psychiatre, c'est particulier, c'est un médecin qui a fait des études de psychiatrie. Et le psychiatre va diagnostiquer la pathologie. Ce qui n'est pas du tout le cas des psychologues et thérapeutes. Le psychiatre aussi, il faut savoir que comme c'est un médecin, ses consultations sont en partie remboursées. On y reviendra peut-être à ce sujet. Le psychologue, la différence entre le psychologue et le psychothérapeute, c'est que le psychologue a des études universitaires. Que le psychothérapeute a fait des études, sa formation, dans des écoles de psychothérapie. Voilà, ça c'est la grande différence. Dans les psychothérapeutes, il y a les psychothérapeutes existentiels, dont je fais partie en gestalt-thérapeute, en tant que gestalt-thérapeute. Il y a les psychothérapeutes corporels, dont je fais aussi partie pour la sophrologie. Il y a les thérapeutes cognitivistes.
Voilà, la thérapie cognitive, c'est ça ?
Oui, les cognitivistes, voilà.
D'accord. Dans les thérapies existentielles dont vous faites partie, vous avez parlé de Gestalt, c'est quoi ?
La Gestalt, c'est un terme allemand qui veut dire la forme, le fond et la forme. Et c'est très important parce que quand on travaille en Gestalt, il y a la forme, donc ce qui apparaît au monde, comment on se présente au monde, et il y a le fond, ce que je suis. Et en fait, on va travailler sur le lien entre ce que je suis, d'ajuster ce que je suis avec comment j'apparais. Ça, c'est vraiment, en gros, c'est ça. Après, la Gestalt, c'est une thérapie existentielle parce qu'elle va le travailler beaucoup sur les émotions, les relations, tout ce qui appartient à l'être individuel, quoi. Et comment je suis en contact avec l'environnement. C'est moi et l'environnement. Dans la relation, c'est moi et l'autre. Et comment je m'ajuste avec ce que je suis sans y renoncer, au contraire. Comment je m'ajuste avec cet autre-là qui a son propre fonctionnement, mais avec qui je peux me relier.
Connecter peut-être.
Connecter et avec qui rentrer dans son monde tout en ne perdant pas le mien. C'est ça en fait. Dans la relation, c'est vraiment ça. C'est apprendre à connaître le monde de l'autre. Et même si je vis depuis 20 ans avec une personne, il y a qu'elle qui se connaît vraiment. Et comment moi je vais comprendre et accueillir son monde tout en ne m'y confondant pas.
On peut parler de trouver sa place dans ce moment-là ?
C'est très juste, c'est tout à fait ça. Trouver sa place au monde et trouver sa place dans la relation.
Les particularités de chacune. Quand on parle de psychiatrie, c'est une pathologie derrière. La psychanalyse, la psychologie ou psychothérapie, là on est plus sur les sentiments qu'on ressent. Est-ce que c'est ça la grande différence ?
C'est les sentiments, c'est-à-dire que c'est pas une maladie. Ça c'est très important à comprendre. Enfin, consulter un psychothérapeute, psychologue, psychanalyste, pas parce qu'on est malade. C'est ça qui est important à comprendre. Alors que le psychiatre, il y a une pathologie où le psychiatre va donner des médicaments parce qu'il y a quelque chose de corporel au niveau du psychisme.
Alors pour quelles raisons consulter ? On ne va pas parler de la psychiatrie aujourd'hui, on parle plutôt de psychologie, mais du coup, quel est le but d'une psychothérapie ?
En fait, à partir du moment où quelqu'un se sent mal, il a un mal-être, il a des angoisses, des insomnies, il y a un peu une surcharge émotionnelle, mentale, et qu'il ne vit pas bien, tout simplement. Ou bien, ça peut être une personne qui se pose des questions. difficultés relationnelles avec ses enfants, avec son conjoint, dans des difficultés relationnelles, et qu'il sent, sans savoir, il sent que ça vient de loin. Mais ça, tout ça, il ne le sait pas encore. C'est ça qui va faire la psychothérapie. Et donc, quand il sent ce mal-être-là, avec des symptômes très corporels, de maux de tête, tout ce qui est...
C'est les maux de tête en général ?
Maux de tête, maux de ventre, tension dans le dos, ça, c'est les grands problèmes corporels qui ont un sens. Et c'est le psychothérapeute, la personne qui va mettre du sens dans ces maux physiques et dans ces maux émotionnels, mentaux, quoi. Enfin, ce n'est vraiment pas une maladie. Pour quelle raison de se sentir mal? J'ai quelques patients qui viennent et qui me disent « J'ai un métier, ça va bien, ça me plaît. J'ai une belle maison. J'ai un mari que j'aime. J'ai des enfants, ça va bien. Mais je viens vous voir parce que je ne vais pas bien. » Et c'est ça qui est très important de comprendre que avec le psychothérapeute, on n'a pas besoin de savoir pourquoi on vient. C'est tout le début d'une thérapie, c'est d'essayer de mettre des mots et accompagner du thérapeute, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que je vais pas bien alors que tout en apparence va bien. Ça, c'est vraiment le début d'une thérapie. Souvent, on a dit il faut venir voir un thérapeute parce que j'ai telle demande, parce que je ne vais pas bien, parce que ceci, parce que cela. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la personne n'est pas censée, enfin, n'est pas obligée de savoir pour venir voir un psy. Elle sent quelque chose, et c'est elle qui sait. Et c'est avec le thérapeute qu'on va détricoter et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et faire du lien.
Il y a des éléments déclencheurs ? La première consultation, quand on va voir le psy ?
Oui, en général, c'est des éléments somatiques.
Lesquels, par exemple ?
Lesquels, ben, maux de ventre, maux de tête, fatigue. Là, la fatigue aussi, parce que la fatigue, c'est un symptôme très, très, qui en dit très long, là, la fatigue. Il y a aussi, quand même, il faut le reconnaître, c'est parce qu'ils font une forme de dépression, et le médecin, c'est aussi par le médecin qu'ils viennent, qu'ils peuvent être orientés.
Donc c'est soit donc des maux somatiques, plus précisément une dépression éventuelle.
Des angoisses beaucoup aussi, sans que ça soit une dépression, mais des angoisses.
Est-ce que la perte d'un être cher, est-ce qu'un accident, des choses violentes, des traumatismes on va dire, sont des éléments qui peuvent déclencher une première consultation ?
Je pense que c'est presque indispensable. Je ne vois pas comment on peut faire comme autrement que d'aller rencontrer un psy parce qu'on a eu un deuil d'une personne chère, parce que ça crée des chamboulements psychiques énormes dont on n'a pas forcément conscience. Non, non, ça va aller, je suis bien entourée, j'ai mes enfants quand même qui sont là. Et en fait, on fait porter à son environnement des problématiques qui nous appartiennent. Et ça, c'est hyper important d'aller voir, de consulter pour... D'abord, quand il y a un deuil, de faire le travail de deuil. Sinon, ça va nous poursuivre et on va être dans une répétition émotionnelle où on va retrouver un événement qui va être difficile et hop, ça va tout se redéclencher, la tristesse, la peur. Et en fait, on va amplifier au fil du temps, on va amplifier parce qu'il y a un trauma qui ne sera pas travaillé.
Parce que au départ de ce deuil, la personne peut ne pas réaliser qu'elle n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute.
Tout à fait.
Pour quelle raison ça va s'amplifier, vous dites?
Parce que c'est un impact, c'est un trauma de perdre quelqu'un, d'avoir un accident. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça joue sur le corporel. Tout est inscrit dans le corporel. Et on engrange ça. Et on se rassure en disant « Bon, ben, j'ai ma famille qui est là, j'ai mon conjoint qui peut m'aider, j'ai un boulot qui va bien, donc tout ça... »«
Je peux parler avec eux. » »«
Voilà, je peux parler avec eux, je suis bien entourée. » Sauf que il y a quelque chose qui n'est pas résolu à l'intérieur, c'est-à-dire que ça s'installe dans l'inconscient de la personne. Et ça reste un poids. Et après, on peut rencontrer juste son enfant qui a fait une chute de vélo, par exemple. Et tout ressort. Ce qui n'a pas été travaillé à un moment donné au niveau d'un traumatisme va se répéter lors d'un nouvel événement complètement différent, mais qui va se répéter.
Et quel serait l'impact, alors, dans ce cas-là, concrètement ? L'impact, justement, d'une personne qui ne fait pas le deuil de quelqu'un ? au bout de quelques temps, on va dire, quelles seraient les conséquences ?
Eh bien, plus elle avance dans sa vie, plus ça va créer un magma de choses. Enfin, elle va se trouver, par exemple, dans une crise d'angoisse, alors que l'événement lui-même n'a pas de sens d'une crise d'angoisse. C'est un micro-événement. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle se met dans une crise d'angoisse comme ça. Parce que ça ne correspond pas à l'événement. Et en fait, c'est que ça réactive quelque chose qui n'a pas été travaillé.
D'où l'importance de faire une thérapie pour pouvoir un peu, c'est pas se purger, mais se nettoyer un peu.
Se nettoyer, se libérer, de mettre des mots, de mettre du sens, de mettre de la compréhension sur quelque chose qui a été vécu pour éviter ces répétitions. Parce que la répétition, on est tout le temps en train, toute chose, tout événement qui n'est pas résolu, compris, intégré, libéré, on prend le bon, on laisse le mauvais, va se répéter sous des formes complètement différentes. C'est pour ça qu'en psychothérapie, la façon dont je pratique aussi, c'est qu'on va quand même regarder l'enfance et l'adolescence. Même si je suis beaucoup dans une pratique de lycée maintenant, de comment je fais pour me sortir de cette situation difficile, je travaille beaucoup sur le comment, mais je vais à un moment donné aller dans le pourquoi je vis ça. Et là, on retourne dans l'enfance et l'adolescence parce que tout s'est inscrit en tant qu'enfant. On n'a pas les moyens de réagir à l'environnement comme on n'a pas l'élaboration suffisante. Donc, on va accumuler plein de compréhensions qui sont peut-être fausses.
Et c'est un peu la différence, en fait, entre son entourage, qui est là pour soutenir, évidemment, et écouter des gens qui sont mal, je dirais, entre guillemets, avec votre méthodologie de psychothérapeute.
Et tout à fait.
À quel moment, on se pose la question, souvent, doit-on faire une thérapie ? C'est tout de suite qu'on est mal, effectivement. On parlait aussi des enfants, quand même un enfant, parce qu'un adulte, on va revenir en arrière, comme vous dites, on va revenir dans l'enfant, dans l'adolescent que nous étions. Mais un enfant qui justement vit un traumatisme.
Oui, alors je suis aussi psychothérapeute pour enfants, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants. C'est une thérapie très particulière, et tous les thérapeutes ne peuvent pas le faire. Il y a une formation spécifique pour les enfants, parce que effectivement, les enfants ne peuvent pas élaborer. Ils sont complètement en symbiose avec le désir, avec ce que sont les parents. Leurs désirs, leurs difficultés, leur angoisse, ils sont complètement en fusion avec ça. Donc comment l'extraire de sa fusion pour aller à la rencontre vraiment de cet enfant ? Alors, bon, avec l'enfant, il ne va pas pouvoir élaborer, donc moi je passe toujours par le jeu. Le jeu, le dessin, et avec des Playmobil, avec... Et là, il raconte son histoire. C'est vraiment à ce moment-là où je rentre dans le monde de l'enfant, dans son monde, et je joue avec lui dans son monde pour pouvoir le connaître.
On pourrait penser qu'un enfant très ouvert peut parler aussi à ses parents, qu'il n'a pas forcément l'envie d'aller voir un psy, ou en tout cas se demander pour quelle raison il doit y être, puisqu'il parle à son entourage, comme les adultes d'ailleurs. Mmh. Est-ce qu'on doit forcer un enfant à venir vous voir quand il a un traumatisme ? Comment ça se passe ?
Jamais forcer. Mais même pour les adultes, il ne faut jamais se forcer. Sinon, il y a déjà une résistance et une pression qu'on se met. Avec l'enfant, il faut parler, il faut lui proposer. Je vois que tu fais beaucoup de colère. Je vois que tu ne vas pas très bien. Moi, je vois ça, le parent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me dire ? Mais tu sais, tu as le droit aussi de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre, qui n'est pas ton papa, qui n'est pas ta maman, mais qui sera là. C'est une spécialiste, c'est la dame de l'écoute, qu'on me surnommait.
La dame de l'écoute.
La dame de l'écoute. Voilà. Et est-ce que c'est possible pour toi ? Mais ça, c'est souvent les situations idéales, on va dire. De parents très à l'écoute de leur enfant, qui ont déjà... En général, ce sont des parents qui ont fait une thérapie ou qui ont déjà baigné un peu dans ce monde-là. Mais surtout pas forcé.
Oui, un enfant, il va se poser certainement la question, pourquoi irais-je voir cette dame ? De l'écoute, c'est ça ?
La dame de l'écoute, oui. Alors, il ne se la pose pas tant que ça. Parce que, toujours pareil, si papa et maman disent, il faut que tu ailles voir quelqu'un, enfin, ça serait bien que tu ailles voir quelqu'un, l'enfant est très soumis à ses parents. Si papa et maman le disent, peut-être. Mais il peut aussi se rebeller. Hein. Dans ce cas-là, il ne faut pas forcer, vraiment.
Vous êtes sur Pigouille Radio dans l'émission C'est dans ma tête avec Catherine. On continue cette conversation juste après cette pause musicale. A tout de suite.
Pigouille Radio, la radio du Marais Poitevin. Le Marais Poitevin à sa radio, Pigouille Radio.
Et voilà, de retour sur Pigouille Radio. Vous êtes dans l'émission de C'est dans ma tête et le sujet du jour est important. Avec Catherine, nous essayons d'y voir plus clair. Beaucoup se demandent comment se déroule une séance de psychothérapie. On était juste avant la pause musicale en train de parler justement à quel moment de faire une thérapie et notamment pour les enfants, Catherine. On peut revenir dessus juste deux minutes. Un enfant qui peut se poser la question, pourquoi mes parents veulent m'emmener voir quelqu'un, comme on dit. Comment ça se passe dans sa tête et comment l'y amener, je dirais.
Comment ça se passe dans sa tête, ça je ne sais pas. Je ne sais pas encore tant que je ne l'ai pas vu. Mais souvent, il va dire, bon, il ne va pas forcément ne pas vouloir y aller puisqu'il répond à la demande de ses parents. Donc si papa et maman disent « faut que j'y aille », souvent il va y aller tranquillement. Souvent les parents sont les moins bons pour accompagner leurs enfants parce qu'ils ont leur histoire, ils ont une relation avec leurs enfants, des désirs, peut-être des frustrations. Donc c'est pas à eux, même si l'enfant parle beaucoup aux parents, ils vont répondre à certaines questions d'une certaine manière et c'est très bien, mais ils ne vont pas accompagner leur enfant.
Puis il n'y a pas ce recul non plus, peut-être.
Il n'y a pas ce recul, ils sont pris aussi, eux, les parents, dans la relation avec leur enfant. Et ce que je voudrais éventuellement ajouter, c'est que j'ai souvent rencontré des enfants, les parents amenaient l'enfant parce qu'il criait beaucoup, parce qu'il avait du mal à s'endormir, parce qu'il ne voulait pas faire ses devoirs, parce que ceci. Voilà, pour une raison. Et en fait, au bout de 2-3 séances, l'enfant, j'évalue qu'il va très bien, qu'il raisonne bien, qu'il a des colères d'enfant, parce que ça c'est tout à fait la caractéristique des enfants, mais que lui va bien. Et que par contre, quand je fais un bilan avec les parents, je propose aux parents de peut-être de venir me voir parce que l'enfant va très bien. Donc il y a certains parents qui refusent d'entendre que leurs enfants vont très bien. Parce qu'en fait, bien souvent, l'enfant porte le symptôme du parent qui est pas bien ou bien du couple. C'est lui le porteur, donc c'est lui qu'on emmène chez le psy pour ne pas avoir à prendre conscience ou à réaliser ou à reconnaître qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, enfin du mal-être ou de la déprime qu'il ne veut pas reconnaître.
Donc qu'il ne voit pas. On se demandait aussi comment se déroule une séance de psychothérapie. La durée, le rythme, l'ambiance, l'environnement, comment vous recevez vos patients?
Alors, suite à une première rencontre, je propose à la personne d'expliquer qu'est-ce qui l'a fait venir, pourquoi elle est là. C'est cette question-là pour dire quelle est votre demande. Mais j'évite quelquefois de dire quelle est votre demande parce qu'ils ne savent pas. Et c'est justement avec le thérapeute qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait venir. Donc voilà, c'est un premier entretien. Et puis, là, ce qui est très important, c'est qu'on va poser à la fin de ce premier entretien le cadre qui protège le thérapeute et qui protège le patient de débordement. Donc on va rappeler des règles déontologiques. Et puis c'est là qu'on va poser aussi, c'est une question qui revient très souvent, combien de temps je vais devoir venir vous voir? Et ça, je réponds toujours, je ne sais pas. Parce que c'est un cheminement, donc ça peut aller très vite. Ça dépend beaucoup de l'engagement de la personne. Est-ce qu'elle vient parce qu'on lui a dit de venir? Est-ce qu'elle vient vraiment, c'est un choix? Dans le cadre, on pose aussi le tarif et la fréquence des séances. Et après, ça c'est un cadre que je nomme pour tous. Mais après, en fonction de la personne, en fonction de ses activités, ça peut être modulé, que ce soit ajusté.
D'accord. Les résultats qu'on peut attendre d'une psychothérapie?
Alors, ça c'est très intéressant comme question, parce que c'est déjà un mieux-être. Pour quelqu'un qui est un peu phobique, pour les transports en commun, il va s'apercevoir petit à petit qu'il arrive à reprendre un transport en commun. Ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que chaque séance va apporter quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, c'est le thérapeute, enfin, en tout cas, je procède comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on fait le point et on regarde le chemin parcouru. Parce que ça, le patient a vraiment beaucoup de mal à le réaliser.
Il a la tête dans le guidon, comme on pourrait dire.
Voilà. Et puis, les progrès ou les avancées sont parfois inconscientes, sont parfois tellement subtiles que ça ne me sert à rien. Donc, c'est très important de revenir sur le début et de voir, ah bah tiens, maintenant, ça vous le faites. Oh oui, mais c'est normal. Oui, mais vous le faites. Et petit à petit, voilà.
Parce que le normal n'était peut-être pas son cas.
Oui.
Il ne prenait pas les transports, et c'est normal, éventuellement. Oui. Et au bout d'un moment, il le fait. Donc là, voilà. Ça permet de se poser à un moment donné, ici et maintenant, comme vous dites, regarder un petit peu ce que vous avez accompli.
Voilà. Et ça, ça redonne confiance. Je dis souvent qu'on a un réservoir confiance. Et quand on vient me voir, la confiance est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes qui me disent « j'ai pas confiance en moi ». Donc, on va regarder aussi, on va regarder ses forces parce que « j'ai pas confiance en moi », je l'entends bien, mais ce n'est pas possible que ça soit dans tous les domaines. Donc, on regarde les domaines où effectivement il y a une perte de confiance et on regarde les domaines où on ne se pose même pas la question puisqu'on a confiance. Mais on va mettre ça en valeur pour que ça remplisse son propre réservoir confiance et ça va être sa ressource. Oui, j'ai pas confiance là, mais je sais faire ça et j'ai confiance dans ce domaine-là. Et à partir de là, on va cheminer pour développer la confiance dans les domaines difficiles.
Ce qui empêche certaines personnes de suivre une thérapie, on en a cité quelques-uns, je vais en reciter d'autres, le prix des séances, le rythme, on peut l'améliorer, on peut l'adapter en tout cas, la durée, peut-être pas, enfin la durée en tout cas, peut-être sur plusieurs années, parce qu'il y a des psychothérapies qui se font sur plusieurs années et du coup ça empêche peut-être certains déjà d'y aller, des a priori, manque d'estime de soi, mais finalement, quel prix donne-t-on à l'épanouissement ou à la guérison pour certains ? Est-ce des craintes ou des excuses ?
Alors, c'est une vaste question, ça.
Parce qu'il y en a même d'autres. Il faut raconter sa vie, ça me fait souffrir de repenser à ce que j'ai vécu. Ça, c'est une expression que j'entends souvent. La crainte d'être jugé, que ses secrets ne soient pas gardés. Alors bon, il y a quand même une sorte de confidentialité avec thérapeute. Et j'ai déjà essayé. Bon, on n'était peut-être pas tombé sur le bon non plus. La relation patient-thérapeute, la motivation du patient, la peur de se confronter à soi-même aussi, demander de l'aide. Ça peut être tous ces cas-là.
Ça peut être tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ?
Alors déjà, ils sont venus.
Pour certains.
Pour certains. Ceux qui ne sont pas venus. Mais je voudrais reprendre vos premières questions du départ.
Oui, la première...
Parce que c'est trop là.
Le prix, ça peut être...
Ça peut être un frein. Et là, moi, j'entends. Dans les conditions actuelles, pour certains, c'est énorme, le prix. Donc, ça peut être un frein. Mais ça cache quand même souvent une résistance. Surtout qu'on peut, ensemble, trouver des aménagements, malgré tout. Voilà, donc le prix est une résistance. Mais est
est-ce
une
que
résistance
ça peut être une excuse ?
Oui. Oui, c'est peur de s'engager, donc je vais prendre un prétexte, donc le prix, qui est assez conséquent, je le reconnais.
Quel prix, en moyenne ? Vous le savez ? Enfin, j'imagine que vous savez vos prix à vous.
Oui.
Mais en moyenne, en France, la majorité des prix moyens d'une consultation ?
Voilà, oui, ça va vraiment dépendre des régions.
Alors chez nous ?
Chez nous, ça fait de 50 à 70, 75 euros.
D'accord. Donc effectivement, ça peut être un frein. Mais moi, je pose souvent la question, du coup, c'est pas jugeant, hein, mais quel prix donne-t-on à l'épanouissement ? Il y en a qui vont avoir d'autres priorités.
Tout à fait. Et tout à fait. Et ça, ça fait partie de l'engagement aussi. Comment je m'accorde du temps pour moi, pour me développer, pour m'épanouir ? Quelle place je mets à ça dans ma vie ? Et il y en a plusieurs qui préfèrent, parce que c'est quand même abordable malgré tout. Si il y en a qui préfèrent acheter une parabole
le numérique par exemple,
voilà,
il
y en a qui préfèrent être dans le matériel, c'est pas le problème, enfin c'est pas un problème, mais je pense que quand les personnes sont décidées à apprendre à se connaître, à peut-être aussi moins souffrir. Parce que c'est là le truc aussi, hein. Moins souffrir, à s'accorder du temps pour eux, à s'estimer suffisamment malgré tout pour s'engager dans une thérapie, c'est pas une question de prix.
Comment trouver un bon psy ? Enfin, vous savez comment on dit, trouver un bon psy. Ce qui est bon pour les uns, elle n'est pas forcément pour les autres.
Tout à fait. Alors là, je pense que chacun doit être conscient qu'on a le droit de se tromper. Parce que une bonne psychothérapie, c'est une psychothérapie où il y a une alliance, c'est fondamental, une alliance avec le thérapeute. Et tous les thérapeutes, tout le monde n'est pas vos amis, donc tous les thérapeutes ne vont pas vous convenir. Forcément, on a, chaque thérapeute a quand même sa couleur, sa personnalité. Donc, c'est important de se présenter à une première séance et de savoir, peut-être que je dirais non. Parce que, sans donner de justification, on ne le sent pas. Puis l'autre, on le sent. pourquoi, bon, c'est un homme, c'est une femme, c'est une personne âgée, c'est une jeune personne, avec qui on est à l'aise. Et ça, c'est très individuel.
Une question de feeling.
Oui, et là, c'est vraiment important de s'écouter. D'oser dire non, ça n'enlève rien au thérapeute. Mais pour moi, ça ne va pas.
Est-ce qu'on réussit à savoir que c'est le bon pour nous au bout de la première séance?
Oui, je pense. Alors après, c'est du ressenti, ça c'est pas concret. Mais les personnes qui reviennent, parce qu'il n'y a aucun forcing, hein. Donc les personnes qui reviennent...
C'est important de le dire, il n'y a aucun forcing.
Mais non, il n'y a aucun forcing. Et pour les personnes que je sens qui ont besoin de réfléchir, là, on se met du temps, on va se revoir une deuxième séance, et puis vous ferez votre choix.
Parmi les différentes psychothérapies qu'on a évoquées tout à l'heure, comment on fait un choix? Une thérapie existentielle, une thérapie corporelle, les différentes thérapies, comment on fait ce choix-là?
Je pense qu'il faut oser ouvrir la porte d'un cabinet ou prendre... voilà, il faut aussi savoir qu'avec les moyens actuels, il y a beaucoup d'informations sur les sites. En général, beaucoup de thérapeutes ont un site internet. Donc là, c'est déjà un premier contact, en fait.
Une première vitrine?
Oui.
De faire confiance au site internet?
Oui.
D'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est...
Et puis beaucoup aussi, maintenant que les personnes osent parler, il y a aussi le réseau.
Le bouche à oreille.
Le bouche à oreille. Avec moi, cette thérapeute-là, ça m'a convenu et tout ça. Voilà, je te donne ton adresse, tu verras.
Donc, en fait, c'est quelque part, toutes ces thérapies aussi, des alternatives, finalement. Mmh. On parle de sophrologie aussi, tout à l'heure. Il y a des techniques complémentaires à la psychothérapie que vous conseillez?
Oui, alors ça va... Parce que en psychothérapie, moi, étant donné que je suis sophrologue, je vais proposer la sophrologie, qui est une thérapie corporelle. Mais je vais pouvoir aussi orienter la personne. J'aime bien orienter les personnes vers du massage. Tout ce qui est thérapie pour un petit peu comme hypnose, c'est-à-dire d'aller par des mouvements oculaires, on va rechercher les traumas anciens. EFT, une pratique pour évacuer momentanément le stress.
Et l'EMDR, c'est avec des...
Oui, pardon, oui, c'est
des
ça.
Gestes...
Des mouvements oculaires.
D'accord.
Qui met dans un état de conscience modifié.
Et donc, vous avez, vous, choisi la sophrologie, parce que ça vous convenait. C'est une question de feeling, encore une fois, je pense. Hein. Donc, des massages, lesquels, par exemple, ayurvédiques?
Oui, peut-être, mais alors, dans ce cas-là, c'est un massage thérapeutique. C'est pas un massage à la thalasso. C'est un massage avec un thérapeute. Alors moi j'ai un contact, pas ici, à Paris, avec une masseuse thérapeute gestalt. Il y a un lien qu'on fait dans ce genre de... Quand je vois une personne, je propose à une personne d'aller la voir, c'est qu'après il y a des retours et tout ça c'est mis au travail dans la thérapie. Donc c'est très intéressant. Mais c'est assez exceptionnel, hein. C'est pas souvent de rencontrer des thérapeutes qui vont convenir, ou les thérapeutes entre eux vont se convenir.
Aussi. Catherine, pour finir, que diriez-vous à nos auditeurs et auditrices de Pigouille Radio dans cette émission « C'est dans ma tête » pour résumer cette première émission?
Eh bien, j'ai été très heureuse de pouvoir transmettre ce que je sais de ces personnes qui viennent me voir, de ce que j'imagine de ces personnes qui ne viennent pas consulter un psy, par leur peur, par leur résistance. Ce que je souhaite, c'est que cette émission apporte confiance et osez. Vous ne prenez aucun risque. Vous avez le choix toujours de dire oui, de dire non. Voilà, ça vous convient, ça vous convient pas, mais prenez soin de vous.
Merci Catherine. Amis de Pigouille Radio et du Marais Poitevin, vous avez certainement comme moi compris l'intérêt de la thérapie de manière générale et les raisons de suivre une thérapie. Peu importe quel spécialiste vous avez choisi de voir, si le premier ne vous convient pas, retentez et on vous invite à échanger sur ce sujet autour de vous. Et c'est la fin de cette émission. Je remercie Catherine pour votre intervention. Merci Catherine.
Merci Christelle.
Auditrice et auditeur de Pigouille Radio, vous aussi vous avez un sujet qui vous tient à cœur autour de la psychologie et souhaitez qu'on en parle sur Pigouille Radio, n'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions sur notre site internet. Nous sommes aussi à votre écoute. Merci de nous avoir écoutés. À très vite pour notre prochain C'est dans ma tête.
C'est dans ma tête, l'émission psychologie de Pigouille Radio, présentée par Christelle. Une émission pour essayer de comprendre certaines de nos émotions et pensées.